Québec.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
Chez l'Étoile Dodge de Jonquière, en mai, viens te gâter. Tu choisis jusqu'à 20% de rabais sur les Ram Classic 2023. Nos Grand Cherokee PHEV ont 8 000 $ de rabais et nos Jeep Gladiator 2023 ont 10%. Wow! Ou tu prends 0% jusqu'à 72 mois. Aussi, nos moteurs diesel Cummins sont sans frais sur les Ram HD 2024 et nos Fiat électriques arrivent bientôt. En mai, viens te gâter chez... L'Étoile Dodge Chrysler! Tout ça avec les changements d'huile gratuits pour 2 ans.
Le rendez-vous des amateurs de sport. Avec Michel Tifot et Dominique Bolduc. Bienvenue dans le vestiaire. Dans le vestiaire.
Bon début de semaine, mesdames, messieurs. Sous la pluie, Dominique Bolduc, bonjour.
Salut Michel.
C'est Roland Garros qui va retenir l'attention au cours des prochains jours, au cours des 2 prochaines semaines. Les Canadiens ont une fiche parfaite aujourd'hui à Roland Garros. 4 en 4, Dominique.
Oui, oui, effectivement. Donc, ça a bien débuté d'abord pour Leilani Fernandez qui, on dit, s'est régalé pour son premier match des internationaux de France. Elle n'a fait qu'une bouchée de la Française Jessica Ponchet, 6-2-6-0.
Bianca Andreescu, beau retour également.
Oui, effectivement, Bianca Andreescu aussi qui a bien réussi son retour en l'emportant 7-5-6-1 contre l'Espagnole Sara Soribes-Tormo. Et là, ben, le prochain tour, elle va affronter la 23e tête de série, la Russe Anna Kalinskaya.
Victoire de Chapovalov, mais notre Québécois Félix Auger-Aliassime, il est allé d'un beau gain ce matin contre un joueur expérimenté, le Japonais Nishioka.
Oui.
Ça s'est terminé 6-2, 6-4 et 6-4. Et pour nous en parler dans les prochaines minutes, Xavier Courchesne, on devait avoir avec nous en studio Richard, qui a eu un contretemps, alors c'est son fils, mais dans le fond, ça va bien faire. Parce que Xavier Courchesne connaît personnellement, puis a joué très près de Félix Auger-Aliassime. Puis on va revenir sur l'élimination de Gabriel Diallo, qui a bien fait en fin de semaine.
Oui.
Hey, son match le plus long en carrière, 4h22. M'a dit quelque chose, Dominique, 4h22 sur un terrain de tennis, là. C'est long, longtemps.
C'est long, longtemps.
Puis notre invité, Xavier Courchesne, a joué contre en simple et avec en double.
Il y a même une page d'histoire qui a probablement s'est tournée aujourd'hui avec la défaite de Raphaël Nadal.
Son dernier match, c'est beau. Hein?
Probablement son dernier match. Un match de 3h05 où il s'est incliné en 3 manches de 6-3, 7-6 et 6-3 contre le 4e mondial, Alexander Zverev. Je pense qu'il a tout donné.
Ouais.
Il a vraiment tout donné.
Le roi de la terre battue.
Oui, littéralement.
Il a été longtemps imbattable.
Ah, oh, il n'y a personne qui était capable de le battre.
Mais tu sais, il est quand même avancé dans l'âge. Il a dû faire face à plusieurs blessures dans les dernières années, dans les derniers mois. Alors, est-ce que Raphaël Nadal a joué son dernier match à Roland-Garros? On en discutera tantôt avec notre invité, Xavier Courchesne.
On parle de quand même 14 titres à Roland-Garros seulement.
14. Ah, c'est carrément la légende là-bas, le grand champion de la terre battue. Au hockey, ben, ça se poursuit ce soir. Alors que les Rangers ont réussi à battre. Tu as écouté le match hier après-midi?
J'ai écouté la 3e période.
Puis la prolongation. Sérieux, 3e période puis prolongation, Floride domine aisément. Quand on dit des fois qu'il faut lancer au but, là.
Ça prend un tir.
Un tir. Un lancer dévié. Les Rangers, ils ont gagné, mais c'est Floride qui méritait la victoire. Alors les Rangers mènent 2-1 dans la série. Puis ce soir, Dallas contre les Oilers d'Edmonton. Je pense qu'on va avoir des séries longues. Il n'y aura pas de séries en 4 en 5. Là.
Je dois dire que les Oilers m'impressionnent. Ouais. Malgré tout, là, malgré la victoire des Stars l'an dernier, là, ils font bien, travaillent très bien. La série est égale 1-1. Puis les Rangers, ben, bravo Rangers, qui sont allés chercher 2 victoires en prolongation face aux Panthers. Mais je vous te le dis, là, peu importe qui gagne, là, les deux équipes vont sortir de là maganées.
Ah oui,
mais maganées.
Ça joue dur.
Ça joue dur. Puis avec coup de coude d'en face, puis ça vient qu'un 2 minutes. Ça va tellement vite en plus.
Ouais.
C'est dur de voir tout ce qui se passe. Il y a des gestes d'un côté comme de l'autre.
Et la grande question que je vais poser à Max Bradet cette semaine, le fait que c'est rendu rapide comme ça, les patinoires sont-elles trop petites? Hey, ça, on pourra en discuter longtemps. Dominique, ça
on
va vite.
Revenir à la glace internationale, ça serait des gros... Tu peux pas l'allonger. Je pense que 200 pieds, c'est assez
non,
long. Là.
Mais...
D'élargir...
Un peu comme au centre Vézina, là.
Pour le spectacle, ça ferait mal.
Ben c'est le... Mais il faut...
Ça irait du côté de la vitesse, par exemple. Ça serait encore du jeu pas mal plus rapide. Mais pense-y, là. Tu prends 32 arénas, puis il faut que tu les coupes. Tu coupes des gradins, là. Mais... Ça va jouer sur quelques... Je pense pas qu'on va se rendre jusque-là. Moi.
Peut-être pas, mais il faut en discuter pareil. On en est rendu là. Qui aurait pensé, dans les années 40, qu'un jour, un gardien de but allait porter un masque?
Oui.
Tu sais, le hockey change, le sport change, les habitudes s'améliorent, tu sais, les équipements de sport se sont améliorés.
Oui.
Tu sais, on va jaser de tennis tantôt. Une petite raquette en bois, là, 30 ans, là, ça existait, 30 ans, 40 ans.
Tout
aujourd'hui,
a changé,
les raquettes de tennis, là, oh boy! D'abord, le cadre est beaucoup plus gros. Plus
c'est large. Léger, ça, ça pèse pratiquement rien.
Les équipements ont changé énormément. Baseball, les Jays, ben là, c'est le temps cette semaine. On joue contre les pauvres White Sox de Chicago. Ils en profitent d'après-midi, ils dominent.
Oui, ils dominent. Pas facile pareil. Ils mènent 3-0. On est en début de sixième manche. 3 points sur 3 coups sûrs, en fait. Circuit de George Springer, circuit de Beau Bichette en deuxième et quatrième manche. Mais les White Sox ont tout de même 5 coups sûrs, n'ont toujours pas marqué.
Toujours au baseball, quel début de saison pour les voyageurs de Jonquière. 4 victoires, seulement 2 revers, puis 2 défaites. Il aurait pu gagner 2 défaites, là.
Ouais, surtout le dernier match, là. Ouais. Que tu restais 3 retraits à aller chercher, il menait 4-2, la relève qui malheureusement a flanché. Dans le premier match, c'est 2 circuits de 3 points qui ont fait mal, parce que sinon, et ce que j'ai remarqué, on donne peu de buts sur balle, et il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Il y en a eu 3 dans le dernier match, mais on n'a pas beaucoup d'erreurs depuis le début de la saison. Ils sont jeunes, ils sont talentueux. Une fiche de 4-2, écoute, c'est parfait pour débuter la saison. Maintenant, on s'en vient à la maison.
On va en parler tantôt avec le coach des voyageurs, Jérémy Chalifour. Dans un petit moment, Roland Garros, le tennis, et Xavier Courchesne.
Arrêt de jeu. Retour en vestiaire dans quelques minutes.
Les lundis à 8h30 à l'émission Réveillez-vous, on parle avec Charles Tanguay de l'Office de protection du consommateur. Comment bien consommer? Comment éviter les fraudes? Quels sont les meilleurs produits sur le marché? Plein de sujets reliés à la consommation à ne pas manquer avec Charles Tanguay de l'Office de protection du consommateur. Les lundis 8h30 à Réveillez-vous au 92.5, ma radio d'ici.
Ne manquez pas tous les jours de semaine l'émission du matin la plus près de vous. Réveillez-vous avec Dominique Bolduc, Pat Bouchard et Éric Lavoie. Entrevues, chroniques, histoires, politiques, tout ce qui touche le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Pièce d'auto Sainte-Geneviève est fière de vous présenter l'émission Réveillez-vous. Pièce d'auto Sainte-Geneviève, une identité régionale depuis 28 ans. 4 points de vente au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un site 100% transactionnel.
Réveillez-vous dès 6h tous les matins de semaine au 92.5, ma radio d'ici.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifon et Dominique Bolduc.
Hey, on va en avoir du tennis dans les 2 prochaines semaines. Ce qui est le fun, Dominique, c'est qu'on avait 5 Canadiens, mais il en reste 4.
Oui.
Il y en a 4 qui ont gagné aujourd'hui. Puis Gabriel Diallo, j'ai écouté le match samedi, c'est pas une honte, là. Il a forcé ça à la 5e manche.
5 manches, là,
cinq
pour le faire.
Manches. Il a été vraiment très bon. Puis notre invité, Xavier Courchesne, je le disais tantôt d'entrée de jeu.
Je sais pas s'il a fait ça 5 manches, lui.
Ben, il a joué plusieurs fois en simple contre Gabriel Diallo. Il l'a même battu. Puis il a joué en double contre. C'est la 2e fois qu'il vient nous retrouver ici en studio au 92.5. Xavier Courchesne, bonjour.
Bonjour Michel, bonjour Dominique.
Raconte-nous ça, là, tabarouette. Tu as joué contre Gabriel Diallo étant plus jeune.
Oui. Je dirais que Gabriel Diallo, j'ai un petit peu grandi avec lui là, sur la scène provinciale, parce que ce qui est différent avec Diallo, deux exemples, Leila Fernandez, Félix Auger-Aliassime, c'est que ce n'était pas un prodige, on peut dire, entre guillemets, quand on était dans les juniors. Il devait se tenir environ entre la 10e, 15e place au niveau du Québec.
Okay.
Ce qui faisait que, ben, on jouait les tournois ensemble, ça m'arrivait souvent de l'affronter. Puis étant donné que je me situais dans ces eaux-là aussi, niveau classement, ben, il m'a battu quelques fois, je l'ai battu quelques fois. On a joué ensemble en double. Puis ce qui est arrivé avec Gabriel, c'est que vers l'âge de 17-18 ans, il y a eu une énorme poussée de croissance. Je pense qu'il est passé de 6 pieds 2 à 6 pieds 8. Puis son jeu a fait...
Il est 6 pieds 8, Gabriel Diallo. Je l'ai regardé à la TV, il est grand.
6 pieds 7, 6 pieds 8, là, si je ne me trompe pas. Mais il a vraiment poussé sur le tard. Puis son jeu, en même temps, a vraiment explosé à ce moment-là.
Hey, à 6 pieds 7, 6 pieds 8 pour le service. Toi, t'es 6 pieds 2?
Ouais. à peu près.
Tu sais, la grandeur, ça aide énormément, surtout pour le service, là.
Ouais, puis ce que je trouve impressionnant chez Gabriel, c'est qu'évidemment, il y a un énorme très bon service avec sa grandeur, mais il se déplace assez bien, surtout sur terre battue. Souvent, les géants comme ça, là, ils ont plus de difficultés à se déplacer, garder les appuis, mais il se déplace très, très bien pour quelqu'un de son âge, là. Fait que selon moi, son potentiel est loin encore d'être atteint, là. Ça me surprendrait vraiment pas qu'il perce le top 100, voire peut-être même le top 50, là. Il est encore jeune, il a seulement 22 ans.
OK. Il pourrait se retrouver un peu comme Chapovalov. Tu sais, Félix, il est dans les top 20-25, mais Chapovalov a baissé un petit peu. Donc, il pourrait se retrouver top 100. Il faut le faire, top 100 dans le tennis.
Oui, ben absolument. Je pense qu'il y a encore une bonne marge de progression, Gabriel. Là.
OK.
Évidemment, il y a un service très puissant, mais je trouve qu'il fait encore quelques doubles fautes de temps en temps. Vous l'avez peut-être
ouais,
vu si vous avez regardé le match.
Oui, on l'a vu. Il y a 6 doubles fautes.
Quand même.
Mais 14 outs.
Oui, évidemment, ça compense. Mais, mais encore là, il pourrait couper sur les doubles fautes. Son pourcentage de premier service, je ne sais pas exactement le pourcentage. Ça devait tourner autour de 50%. Ça peut s'améliorer. Puis en fond de terrain, il est très puissant. Fait encore des fautes un petit peu, selon moi. Mais il y a définitivement les armes pour percer le top 100, là, selon moi.
Puis en plus, il a perdu en 5 manches. Mais dans les deux premières manches, 7-5, il a perdu 7-5, 7-6. À 7-5, il venait 5-2.
Mm-hmm.
Il l'a échappé. Puis dans le deuxième 7-6, il venait 5-4. Mais tu sais, je vois qu'on a un joueur d'expérience, là.
Exact.
Parce qu'il aurait pu gagner cette première partie-là, là-bas. Là.
Ben évidemment, c'est la première fois que Gabriel Diallo joue le tableau principal d'un grand chelem à 22 ans contre Kei Nishikori, ancien top 5 mondial, finaliste au US Open, si je me souviens bien. Évidemment, il a dû avoir de la nervosité du côté de Diallo, ce qui est tout à fait comprenable. Il va apprendre, il va gagner de l'expérience. Puis contre Nishikori, ben, même s'il est un petit peu affaibli par les blessures, la vieillesse, il est habitué à ces moments-là, puis probablement rester plus calme là, quand c'était vraiment serré, surtout à la cinquième manche.
Et ce matin, celui qui retenait l'attention, c'est Félix Auger-Aliassime. Lui, il a gagné en 3 manches contre le Japonais Nishioka, qui est un gaucher. Puis je te posais la question tantôt avant d'entrer en onde. Les gauchers sont durs à jouer au tennis en raison de leur service sortant. Ben, matin, souvent, Félix sortait presque du terrain, ramenait la balle en jeu, puis les gauchers, c'est pas évident. T'as dû jouer souvent contre les gauchers.
Ouais, c'est très difficile pour un droitier de jouer pour un gaucher parce que, dans le fond, le service naturel d'un gaucher, c'est la slice du côté du revers.
Ouais.
Revers qui est habituellement le coup le plus faible. Là. Fait que, tu sais... Puis en plus, en étant droitier, souvent, on n'est pas habitué de jouer contre des gauchers, tandis que les gauchers, eux, sont habitués de jouer contre des droitiers
c'est
tout le
ça.
Temps. Fait que ça prend tout le temps un petit moment d'adaptation, là, souvent, pour s'adapter. Mais quoi que, probablement, au niveau professionnel, j'imagine que Félix s'est peut-être même entraîné sûrement avec des joueurs gauchers là, plusieurs jours à l'avance quand il a vu le tableau. Fait qu'on l'a vu, là, il a gagné le premier set 6-2. Il devait être prêt, il était même si Nishioka était gaucher. Mais effectivement, ça peut être un challenge de plus, là, des fois.
Et quel service pour Félix Auger Aliassime, c'est vraiment son arme forte. Là.
Ben, le service...
Quand son service passe, puis il est dur à battre.
Le service puis le coup droit, là, c'est vraiment ses deux coups. Quand il réussit vraiment à prendre le contrôle de l'échange avec son service, son coup droit, il devient vraiment dur à battre. Mais c'est évidemment son revers qui est encore un petit peu sa faiblesse. Là, souvent, on le voit, il va faire la faute. Mais quand vraiment il domine le point, il contrôle l'échange avec son coup droit, là, très, très difficile d'aller lui faire mal. Là.
Revenons à Rafael Nadal, on en a parlé tantôt. Tu sais, le tennis, c'est de remettre la balle en jeu. Puis Nadal, c'est un gars qui... C'est le roi de la terre battue, mais le roi pour retourner la balle. C'est un retourneur de balle. Puis tu sais, t'arrives, t'as joué contre différents styles au tennis, mais les retourneurs de balle, souvent, ils sont durs à jouer. Puis Nadal en est la preuve, surtout sur terre battue. La balle, il a retourné longtemps, Nadal, la balle.
Là. Exact. Ben, sur terre battue, on sait que le jeu est plus lent.
Ouais.
Donc, plus difficile de faire des coups gagnants. Évidemment, ça favorise des gars comme Nadal qui sont rapides, qui sont fighters, qui ratent pas une balle. Puis, effectivement, ce matin-là, un peu une page d'histoire qui se tourne. Là, probablement, parce que Nadal n'a pas voulu le confirmer à 100%, mais probablement le dernier match à Roland-Garros de sa carrière, où est-ce qu'il a gagné 14 fois en 18 apparences. Une fiche de 112 victoires, 4 défaites à Roland-Garros. Ça me surprendrait
112-4, Dominique.
4 défaites.
4 défaites seulement. Ouais. Un lanceur aurait une fiche comme ça au baseball, on dirait c'est
ben, on n'a aucun autre sport, on voit ça.
Ah, c'est impossible, non, t'as raison.
4. Ça me surprend. Je pense pas qu'on va jamais revoir ça de tous les temps. 14 grands chelems. C'est un record, selon moi, imbattable. Puis c'est dommage, écoute, il est tombé sur Alexander Zverev, qui a 27 ans, au pic de sa carrière, au top de sa forme, vient de gagner le Masters de Rome, qui est le tournoi préparatoire avant Roland-Garros. Nadal a joué un bon match, mais évidemment, c'était pas assez contre Zverev, quatrième mondial, qui est en pleine confiance. On l'a vu, Nadal, les déplacements. Il y a tellement un jeu physique Sa force, c'était justement ses déplacements, sa rapidité. Mais à 37 ans, presque 38, ben là, des fois, il manquait un petit peu de rapidité pour se rendre aux balles. Tout le temps, un petit peu sur la jambe arrière, un petit peu en retard. Mais Zverev a vraiment été solide là, tout au long. Puis selon moi, s'il était tombé sur 90% des autres joueurs du tableau, Nadal aurait passé au moins le premier tour. Il aurait peut-être gagné sa confiance. Il aurait peut-être réussi à faire quelques tours, t'sais, faire un parcours là, honorable. Mais étant donné qu'il n'y a plus de classement, il n'y a plus de tête de série, ben, il pouvait tomber sur n'importe qui là, dès le premier tour.
Quand Xavier Courchesne était jeune, tout jeune, quand tu as pris la raquette dans tes mains pour la première fois et tu as pris le goût du tennis, avais-tu un joueur préféré?
Raphaël Nadal.
Ah, c'est Nadal!
Absolument, absolument. Ça a été Nadal, moi, tout au long de ma carrière junior. J'aimais tellement justement son esprit de compétition. Jamais il allait lâcher sur un point. Fait que Nadal, écoute, j'avais des posters partout dans ma chambre. Là. C'était vraiment mon joueur. Fait que, évidemment, ça me fait un petit quelque chose aussi là, aujourd'hui de voir que c'est peut-être son dernier match.
Et tu m'as appris tantôt, avant d'entrer en studio, que Nadal, dans tous les sports, Dominique, il est droitier, puis au tennis, il est gaucher.
Spécial, pareil.
Mm-hmm. Ben, il y a comme une genre de rumeur justement à ce sujet-là. Là, où est-ce que Tony Nadal, son oncle, son coach pendant 20-25 ans, qui l'a vraiment amené où est-ce qu'il est en ce moment, l'aurait fait commencer de la main gauche parce que justement, comme on parlait tantôt, c'est pas facile jouer contre des gauchers. Nadal l'a jamais confirmé. Tony Nadal non plus. Mais il y a des rumeurs qui disent que ils l'ont tout de suite commencé de la main gauche, même s'il est droitier au golf dans tous les autres sports. Pour justement être plus dangereux là, pour ses adversaires.
On va revenir sur ton académie de tennis qui va commencer très bientôt à Chicoutimi, secteur Nord. Mais je veux que tu nous racontes, là, tu t'en vas étudier à Sherbrooke à l'automne. Tu vas jouer pour l'équipe du Vert et Or, parce que là-bas, c'est le Vert et Or. Tu vas continuer ta carrière un peu au tennis là-bas aussi?
Oui, ben là, c'est ça. Moi, j'avais comme un petit peu arrêté ma carrière en tant que joueur, il y a quelques années, à raison d'une blessure, je m'étais concentré justement plus sur l'enseignement du tennis avec mon académie de tennis que j'ai débuté il y a 4 ans. Puis là, ben, écoute, j'ai une belle opportunité qui se présente à moi. Je m'en vais finir mes études à Sherbrooke. Puis, il y a un super de beau circuit universitaire là-bas. Donc, je vais jouer pour le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Fait qu'on va se confronter là, à Montréal, les Carabins, le Rouge et Or. Il y a 7 universités quand même là, dans le circuit. Fait qu'écoute, un beau défi, là, probablement mes derniers pas là, en tant que joueur.
Et tantôt, Dominique, je posais la question à Xavier. Tu t'en vas universitaire à Sherbrooke, est-ce qu'il paye tes études? Est-ce que tout est et un peu comme aux États-Unis? Puis il me disait non. Par contre, pour avoir jasé souvent avec des jeunes qui sont allés soit au baseball ou au tennis aux États-Unis, là où tout est payé, tu me donnais l'exemple de Maxime Maréchal et qui est un prospect de Saguenay, qui est là-bas, en Virginie, je pense.
Ouais,
là-bas, aux États-Unis, tout est payé, là.
Je dirais que la réalité d'un étudiant athlète au Québec et aux États-Unis, c'est complètement différent. Oui. De un, évidemment, ici, des bourses, en tant que joueur, c'est très, 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 très rare. Je sais que ça existe un petit peu, mais c'est vraiment très, très rare. Tandis qu'aux États-Unis, c'est monnaie courante là, que quand une université veut un certain joueur, va lui payer 100% de ses études. Puis seulement l'ambiance là, sur le campus là, aux États-Unis, que ce soit dans n'importe quel sport, les fans sont au rendez-vous, même dans les parties universitaires, c'est bruyant, l'intensité est vraiment là, tandis qu'au Québec, c'est un petit peu moins développé. Évidemment, là, il y a quelques spectateurs souvent dans les matchs, mais c'est beaucoup plus tranquille. Mais c'est ça, aux États-Unis, c'est vraiment fou. Puis il y a plusieurs joueurs, on le voit de plus en plus, des joueurs qui se font les dents sur le circuit universitaire américain, pour ensuite passer sur le circuit professionnel. Je pense à Ben Shelton, qui est 15e au monde, qui, il y a 2 ans, était à l'université pour les Gators, l'université de la Floride. Fait qu'il y en a de plus en plus qui font ça, là, qui vont jouer, étudier aux États-Unis pour transitionner vers le circuit professionnel par la suite.
Alors, c'est le fun de voir les jeunes originaires de Saguenay qui progressent comme ça puis qui s'en vont sur les circuits universitaires. C'est le cas de Maxime Maréchal et de Xavier Courchesne qui va se retrouver à Sherbrooke l'automne prochain. Pis c'est important de bien enseigner aux jeunes. Et depuis 2-3 ans, mais là, ça grossit ton académie de tennis. Ça s'appelle l'Académie Xavier Courchesne?
L'Académie de tennis Saguenay.
Ah, Saguenay. Ouais. OK. Et c'est toi qui es à la tête de cette académie. Ça fonctionne comment? Vous jouez à Chicoutimi Nord?
Oui. En fait, je me promène un petit peu partout sur les terrains de la région. Donc, Jonquière, Chicoutimi. Mais notre terrain, là, majoritairement, où est-ce qu'on est basé, c'est effectivement au club de tennis Bordelot, qui est situé à Chicoutimi-Nord.
C'est de toute beauté. J'ai déjà joué au tennis là. C'est beau comme terrain. Ouais. Terre battue.
C'est des terrains terre de battue. Ouais. C'est sur le bord de, du Saguenay. Ouais. On a vraiment la vue. Puis le tennis Bordelot, écoute, ça fait 61 ans ouais. que ça existe.
Oui, ouais, 61 ouais. ans.
Ça a été un club très, très achalandé là, pendant ouais. des années. Ça avait un petit peu ralenti dans les dernières années.
Pour l'entretien. J'avais parlé avec Jean Bordelot.
Oui, exact. L'entretien. Terrain terre battue, ça demande pas mal d'entretien. Ouais. L'arrosage, bref, passer le rouleau, toutes sortes d'affaires. Puis écoute, moi je suis super content. Il y a 4 ans, ben, j'ai contacté M. Bordelot, puis on a comme un peu relancé le club de tennis Bordelot avec l'Académie de tennis Saguenay qui sont en partenariat. Fait que, je remercie aussi M. Jean Bordelot là, qui, écoute, je pense à 80 ans, encore en train d'entretenir son terrain wow. à tous les matins, arrose, passe le balai, passe les lignes. Fait que, écoute, c'est vraiment un beau projet. Puis, effectivement, ça grossit là, d'année en année.
Et comment ça fonctionne, l'académie, là, pour les jeunes qui nous écoutent, qui voudraient s'inscrire ouais. pour jouer au tennis puis apprendre? Là?
Absolument. Ben, on a un site web, justement, qui s'appelle l'Académie de tennis Saguenay, où est-ce que tous nos services là, sont énumérés là-bas. Mon objectif avec l'Académie de tennis Saguenay, c'était vraiment de démocratiser le tennis. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de monde qui jouait pour un sport, je suis un peu biaisé, mais que je trouve tellement plaisant à jouer. Fait que ça va vraiment là, des plus jeunes de 7 ans, débutants qui n'ont jamais touché une raquette de leur vie. On a des cours pour eux autres. On a aussi des cours adultes, débutants, intermédiaires, d'un peu tous les niveaux. Fait que tout simplement, en allant sur le site web de l'Académie de tennis Saguenay, tous nos services sont là, toutes nos coordonnées pour rentrer en contact avec nous autres, s'inscrire aux sessions de cours sont là. Puis c'est ça, que vous soyez avancé, que vous soyez débutant au tennis, peu importe votre âge, on essaie de servir tout le monde.
Si je ne me trompe pas, tu vas au lac aussi, Alma, Roberval. On est écouté dans ce coin-là. Les jeunes de Roberval ou d'Alma qui voudraient s'inscrire cet été à tes cours, ils peuvent le faire aussi?
Absolument. J'ai une entente avec le club de tennis d'Alma puis la ville de Roberval, qui sont des cours juniors et adultes. Donc, si vous communiquez soit avec moi ou soit avec les différents organismes à Alma puis à Roberval, c'est possible de s'inscrire. Puis, je suis vraiment content, en fait, d'avoir eu des petits contrôles au lac comme ça parce que le tennis au lac Saint-Jean est un peu en décrépitude, là, selon ouais. moi, dans les dernières années. Avant, c'était vraiment cool. On avait des juniors d'Alma, du haut du lac, qui se battaient contre les juniors de Saguenay. Il y avait vraiment des bons matchs, des rivalités. Maintenant, on a un peu perdu ça. Les meilleurs juniors sont vraiment basés à Saguenay. Fait que j'essaie un peu là, d'aider là, ces villes-là à réencourager les jeunes à s'inscrire, à jouer du tennis là, de haut niveau aussi.
Xavier Courchaine, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer en studio. On a jasé beaucoup de Roland-Garros. On se reprend pour Wimbledon.
Absolument.
Il va y avoir Montréal également au mois d'août. Ouais. Tu vas être sur place. On va se rejaser de tennis. Nos Québécois sont en feu à Roland-Garros. Mais nos voyageurs aussi au baseball sont en feu.
Début de saison.
Quel début de saison? On en parle dans un petit moment.
Merci, Michel.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5. Ma radio d'ici.
Saviez-vous que la majorité des incendies mortels surviennent dans les résidences? Dans la plupart des cas, les pompiers ont constaté qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou encore que celui-ci n'a pas fonctionné, souvent en raison d'une pile absente ou épuisée. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c'est comme avoir chez soi un pompier qui surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée. Une invitation de votre service municipal de sécurité incendie et de votre station de radio locale.
Moi, je veux un matelas mou. Mon conjoint, un matelas ferme. La solution pour dormir ensemble, les matelas modulables et même évolutifs 100% québécois. Une nouvelle technologie conçue par Matelas Avantage de l'avenue Dupont-Sud à Alma avec un service après-vente impressionnant.
Promo permis chez Chasse et Pêche Chicoutimi. À l'achat de 150 $ d'articles de pêche, recevez gratuitement votre permis et une serviette Écotone. Chasse et Pêche Chicoutimi, coin autoroute.
Ici André Deschênes. Vous planifiez un party, une soirée de mariage, un 25e, un 50e, un 5 à 7 avec animation dans une salle ou dans votre maison. Peu importe l'endroit, peu importe le moment, tout est possible parce que je m'en occupe avec vous. Disque jockey, animateur, chanteur, c'est un clé en main selon vos demandes et vos exigences. C'est simple, un service de musique clé en main. Appelez-moi André Deschênes, 88-815-69-77. C'est 25 ans d'expérience à votre service, à prix vraiment, vraiment compétitif. Et toutes les sortes de danse. Ou encore, en tant que chanteur, pour une occasion plus sobre, comme une funéraille.
Au village où je suis né, tu es le miroir. de ma vie.
Bref, musique pour toute occasion. André Deschênes, je suis aussi sur Facebook. 418-815-6977. Au plaisir de vous servir.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
Chez l'Étoile Dodge de Jonquière, en mai, viens te gâter. Tu choisis jusqu'à 20% de rabais sur les Ram Classic 2023. Nos Grand Cherokee PHEV ont 8 000 $ de rabais et nos Jeep Gladiator 2023 ont 10%. Wow! Ou tu prends 0% jusqu'à 72 mois. Aussi, nos moteurs diesel Cummins sont sans frais sur les Ram HD 2024. Et nos Fiat électriques arrivent bientôt. En mai, viens te gâter chez...
L'Étoile Dodge Chrysler.
Tout ça avec les changements d'huile gratuits pour 2 ans.
Baseball.
J'écoutais le... Avant de parler de baseball, là, je veux revenir au championnat du monde de hockey sur glace. J'écoutais le match Canada-Suisse en fin de semaine. Puis à un moment donné, Marc Denis parle de René Matt, l'ancien entraîneur des Saguenay-Chicoutimi. Tu sais, on avait déjà jasé avec lui. Il était en Suisse là-bas.
Oui.
Il coach dans la Ligue nationale suisse. Puis là, il dit René Matt, il travaille pour une chaîne de sport, un peu comme RDS, en Suisse. Il est ami Facebook avec moi. Je vais prendre une chance. Je lui écris. Salut René, tata, j'aimerais ça parler avec toi dans l'émission. Ça a pris 10 minutes. Il me dit oui. Il sera notre invité demain dans le vestiaire. En parlant de coaching, les élites midgets de Jonquière vont nommer leur coach jeudi. Il y avait 4 coachs de l'extérieur et un de la région. Mais on ne sait pas qui a été choisi, on va le savoir jeudi. Et toujours dans le coaching, ben le nouveau coach, le nouvel entraîneur des Voyageurs doit être content du début de saison. 4 victoires, 2 défaites, et les 2 défaites, ça aurait pu être une ou 2 victoires. On en discute avec Jérémy Chalifour. Jérémy, bonjour.
Salut Michel, ça va bien?
Très bien. Est-ce que tu t'attendais à un tel début de saison?
Écoute, sur papier, je peux pas dire qu'on s'attendait à un tel début, mais on était prêts. Fait que, on savait qu'on allait surprendre le début de l'année avec notre bon camp qu'on avait eu, notre préparation, mais on est extrêmement content de la première semaine et de ce qu'on a pu voir des joueurs, là, autant lanceurs, en défensive qu'au bâton. On a bien performé. Puis, comme vous avez dit hier, ça. 2 matchs extrêmement serrés contre une excellente équipe dans la Ligue, puis les 2 matchs en 7e manche, on était dans le coup, donc on aurait pu mériter un meilleur sort hier.
Et quand on regarde les statistiques, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde produit. C'est pas juste un ou deux joueurs qui vont frapper 2-3 coups sûrs dans les victoires, comme par exemple à Charlebourg le 13-0, que ce soit le 13-4 contre Gatineau samedi. Tout le monde a au moins 1 ou 2 coups sûrs, participe, s'inscrit au pointage, produit des coéquipiers. C'est intéressant, ça.
Oui, l'alignement est vraiment complet. On a des joueurs qui frappent de 1 à 9. Puis on a aussi beaucoup de joueurs qui courent. Je pense que c'est l'avantage cette année qu'on a. On est fatiguant sur les sentiers, on dépose la mortier régulièrement. Fait que, je pense que c'est ce qui fait qu'on est coriace pour l'équipe adverse. Mais oui, du frappeur 1 à 9, on est fatiguant. Puis tout le monde fait le travail et trouve une manière d'embarquer. Puis, quand on est sur les sentiers, ben, ça prend des joueurs qui produisent des points. Mais pour le moment, notre offensif fait le boulot. Donc, c'est de bonne augure pour le résultat.
On parle souvent de baseball, Dominique et moi, puis notre collaborateur, Michel Bureau. Puis on dit, le baseball, il faut fabriquer des points, ce que les Jays ne font pas. Les Voyageurs, en fin de semaine, 11 buts volés, des amortis. Tu sais, ce qu'on appelle un bunt là, au baseball, les amortis, ça fait partie du baseball, ça fait grouiller la défensive adverse. Et toi, Jérémy, en tout cas, tu as l'air d'avoir compris ça. Tu te sers beaucoup de l'amorti puis de la vitesse de tes joueurs.
Oui, puis en début de saison, surtout l'amorti surprise, c'est qu'on a beaucoup bunté, si on peut dire, mais pour des coups sûrs, c'est pas juste le fait d'avancer les joueurs qui sont sur les sentiers, mais surtout de provoquer. À Gatineau, on a sorti un bon lanceur avec ça un petit peu. On a sorti 2-3 amortis collés qu'on a réussi à embarquer sur les buts. Donc, on s'ajuste avec l'alignement qu'on a. En ce moment, je peux voir qu'on a beaucoup de vitesse en alignement offensif. Donc, on a des joueurs qui en profitent. Puis, on met un petit peu la défensive sur les talons. Puis je pense que c'est ce qui nous permet d'être coriace la manche 1 à la manche 7.
Ça a l'air niaiseux un peu, là, un amorti. Là. C'est pas facile à réussir. Un beau bunt, là, un bel amorti. Là.
C'est de jouer la défensive qui sont... Tu es placé pour recevoir un coup sûr, tu déposes la balle.
Non, mais c'est parce que Dominique, c'est très, très technique.
Ah ben oui.
C'est très. Le pratiquez-vous beaucoup?
On essaie. On essaie au camp avant la fin. Surtout, on a mis l'emphase sans amorti en pratique. On essaie de travailler avec les joueurs pour avoir la meilleure technique possible. Puis, en tant que lanceur, des fois, c'est pas agréable non plus de faire un amorti qui est différent avec ça. Ben, des fois, ça peut sortir un petit peu le lanceur de son match. Fait que pour nous, c'est juste un avantage, tu sais, que l'autre équipe sache un petit peu qu'on est capable de produire avec ça. Je pense que ça rend tout le monde un petit peu sur les talons.
Puis quand on regarde également au niveau du monticule, tes lanceurs font le travail. Bon, hier, oui, il y a eu un sabotage en septième manche dans le dernier match, mais quand tu regardes tes lanceurs partant, le jeune Jérémy Labonté qui a déjà deux départs, deux victoires, il a donné un point mérité en 10 manches. Et ce que je remarque également dans le cumulatif des lanceurs, seulement 25 buts sur balle en 40 manches lancées. C'est pas rien, là.
C'est toujours un du camp, on met l'emphase sur lancer des trains. C'est ça qu'on savait qu'elle avait un petit peu notre force du côté de la rotation des lanceurs. Puis tout le monde fait le travail. C'est ça qui est agréable. Puis ça crée une compétition féroce à l'interne. Donc tout le monde a eu son tour pour les partants. Le deuxième tour va revenir pour certains cette semaine. Mais oui, tout le monde est efficace autant pour les partants qu'en relève. Puis dans cette ligue-là, si tu lances des prises, on va avoir une chance de gagner à chaque match. Puis c'est ça qui est important.
Dans cette ligue-là, faut que tu, je retiens ce que tu viens de dire. Il faut que tu lances des prises. Il faut que tu évites les buts sur balle. Et je rajouterais, Jérémy, dans cette ligue-là, la défensive, c'est important. Si on oublie la game d'hier, 5-4, la défaite de 5-4, où vous avez eu des erreurs, depuis le début de l'année, vous êtes presque parfait en défensive. Puis le baseball junior, selon moi, là, ça se gagne en défensive.
Ben, je suis d'accord avec vous, parce que dans ma tête, c'est les buts sur balle et les erreurs qui font la différence.
Exact.
Au bout de la ligne. Donc, oui, on est content de l'offensive, mais quand on avait collé 3 matchs collés sans erreur, pour moi, c'était le plus important. Puis c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Parce que quand on va arriver, plus la saison va avancer, que ce soit vers les séries, ben, ça va jouer au monticule puis en défensive. Parce qu'on sait que plus la saison avance, plus les matchs vont être à bas pointage, plus les équipes vont resserrer le jeu un petit peu. Fait que c'est cet aspect-là qu'on a travaillé fort depuis le début du camp. Puis qu'on peut dire qu'en ce moment, ça porte ses fruits. Donc, c'est sûr qu'on va en reparler avec l'équipe, on va travailler fort encore à ce niveau-là. Puis dans le deuxième match, hier, un petit peu, c'est ça qui nous a coulé. On a 3 erreurs, dont 2 qui ont coûté des points. Donc, c'est sûr que si on enlève ces petites erreurs-là, je pense qu'hier, on se sauve avec la victoire. Mais je vais le rappeler aux joueurs, puis d'être le plus conscient à chaque match en défensive, puis de prendre aucun lancer pour acquis, puis d'être prêt à chaque jeu.
Avec l'excellent début de saison des Voyageurs, donnez le goût à vos fans, aux spectateurs d'assister au match de jeudi. À quoi ça peut ressembler la partie de jeudi? Qui sera le lanceur partant et tous tes joueurs pour la première joute à Jonquière?
Pas mal, tout le monde va être présent. Ceux qui étaient là en fin de semaine avec nous vont être présents jeudi à Jonquière. C'est le jeune Alex Dionne qui va avoir la balle au Monticule, qui vient de Saint-Honoré. Donc, c'est un jeune de 18 ans qui sort de l'Académie de baseball du Canada. Il va être à son deuxième départ. Il a très bien fait à Charlebourg la semaine passée. Puis c'est à lui qui revient la balle pour ce premier match à la maison. Puis tous les joueurs ont hâte. Ça fait longtemps qu'on en parle. On a jasé un petit peu en fin de semaine. On avait hâte à ce jeudi-là. Puis ça va être un très bon match contre les Diamants qui ont eux aussi un bon début de saison.
Il va y avoir du monde, mais surtout de l'ambiance. Hey, Jérémy Chalifour, on se voit jeudi.
Yes.
Merci beaucoup. 4 victoires, 2 défaites. Excellent début de saison.
Très bon début de saison.
Pour les Voyageurs. Donc, on rappelle que nos 4 Canadiens ont gagné aujourd'hui à Roland-Garros. Il y a un match de hockey de Ligue nationale ce soir, Dominique?
Oui, le troisième match de la série finale de l'Ouest entre les Stars de Dallas et les Oilers d'Edmonton. La série qui est égale 1-1. Le match est à 20h30.
Et au baseball, les Jays menaient 3-0. Vas-tu réussir à sortir une victoire contre les White Sox?
C'est toujours 3-0. On est en début de 7e manche. Il y a 2 coureurs aux extrémités actuellement pour les Jays.
Et dans un petit moment, un autre ancien joueur des Saguenayens de Chicoutimi, Tommy Tremblay.
Arrêt de jeu. Dans quelques minutes. Feu, feu, joli feu, ton ardeur nous réjouit. Feu, feu, joli feu, danse dans la nuit. Vive la lumière du feu.
Vive la lumière.
Feu de camp, mégot, brûlage de rebut. La négligence peut causer des feux de forêt. Évitons les feux évitables. Un message de la SOPFEU.
Pour pas rater votre bête à la chasse, pour avoir le plus beau poisson,
pour être à la fine pointe de votre sport. Écoutez Steve Landry et sa chronique Chasse et pêche, présentation de Chasse et pêche Chicoutimi, tous les mercredis dans Réveillez-vous et dans le retour du 92.5. Trucs, astuces, anecdotes avec un fin connaisseur, c'est avec Steve Landry que ça se passe. Les mercredis dans Réveillez-vous et dans le retour du 92.5, une présentation de Chasse et pêche Chicoutimi, détaillant FXR et Coton.
Allô Antoine, comment s'est passée ta journée à l'école?
Bien, j'ai fait plein de choses.
Ah oui?
Oui, j'ai fait des maths avec Mme Manon. J'ai travaillé l'écriture avec Mme Émilie. Et à la récréation, M. Simon m'a aidée après ma chute dans la cour.
Que dirais-tu de profiter de la journée de valorisation du personnel scolaire pour remercier ceux qui t'appuient à l'école?
Oui, je vais leur faire une carte!
Le 28 mai, soulignez la journée de valorisation du personnel scolaire et dites merci à tous ceux et celles qui travaillent auprès de nos enfants.
Un message du gouvernement du Québec.
Hockey Junior. Ah, OK, Junior, un autre ancien joueur des Saguenayens de Chicoutimi pour nous le présenter. Yves Bolduc. Yves, bonjour.
Salut, les gars.
Il s'agit de qui cette semaine?
Cette semaine, on reçoit un joueur qui a joué une saison avec les Saguenayens seulement en 2006-2007. Un joueur de rôle lors de son passage avec les Saguenayens. Puis je pense qu'il s'est développé dans ce rôle-là également, à part peut-être sa saison comme joueur de 20 ans, où il a partagé son temps avec les Cataractes de Shawinigan et les Olympiques de Gatineau. Un joueur qui a accepté d'emblée de participer à notre projet d'entrevue avec les anciens joueurs. Un choix de deuxième ronde, le 19e au total en 2006, par les Saguenayens. Et parmi son fait d'armes, il a joué au hockey universitaire, il a joué au hockey senior, il joue encore d'ailleurs. Cette année, il a disputé quatre parties avec les Éperviers de Sorel-Tracy dans la Ligue nord-américaine. Et il a joué le reste de ses matchs dans la Ligue senior 3 du Québec avec les Loups de la Tuque. Mais il a aussi été choisi sur la première équipe d'étoiles de la Conférence de l'Est de l'Ontario au hockey universitaire lors de la saison 2013-2014. Il occupe actuellement un poste de recruteur chez l'ennemi avec les Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue junior majeure, dans la Ligue junior maritime du Québec. Et on le reçoit immédiatement. C'est Tommy Tremblay qui est en ligne avec nous. Bon après-midi, Tommy.
Bonjour, monsieur.
Hey, Tommy, tu es un gars originaire de où? Habituellement, Tremblay, ça vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toi, tu viens de où?
Moi, je viens de la Tuque, originaire de la Haute-Mauricie, donc quand même près du Saguenay, mais ouais, pas tout à fait encore.
Y en a-tu beaucoup des Tremblay à la Tuque?
Il y en a quand même. Moi, dans ma famille, ma mère est une Tremblay, mon père est un Tremblay également, donc j'ai peu de famille au Saguenay, mais j'ai quand même beaucoup de famille à la Tuque.
Et la Tuque, c'est pas... Et la Tuque, c'est pas dans les plus grosses villes du Québec, mais le hockey est extrêmement populaire. J'ai déjà joué des tournois de hockey là-bas à la Tuque. Toi, t'as commencé, quand tu as commencé ton hockey, il y avait du hockey mineur à l'aréna là-bas?
Oui, exactement. Moi, en fait, j'ai commencé à l'âge de 3 ans. Donc, l'école de hockey, à l'époque, était l'école de hockey Vic Croteau, qui était quelqu'un quand même assez impliqué là, dans le hockey à la Tuque, puis surtout au niveau du hockey mineur avec les plus jeunes. Donc, tu sais, moi, j'ai commencé à 3 ans jusqu'à 5-6 ans là, dans ces catégories-là. Puis à l'époque, ben, nous, on jouait seulement entre nous à la Tuque. Puis il devait avoir environ là, 4 à 6 équipes là, par groupe d'âge. Donc, on avait quand même beaucoup, beaucoup de jeunes. Une bonne partie des jeunes de mon âge ont commencé à jouer là, pas mal à cet âge-là.
Tommy, tu fais partie du groupe des anciens avec qui on s'entretient chaque semaine. On est rendu à peu près un peu plus que 110 là, de joueurs qui ont passé à nos micros. Parle-nous d'une personne qui a exercé une grande influence dans ta carrière d'hockey junior.
Dans ma carrière, j'ai eu la chance de côtoyer quand même plusieurs bons joueurs. C'est pas nécessairement eux qui ont eu la plus grande influence sur moi, mais je dirais qu'un entraîneur que j'ai eu la chance d'avoir à l'âge de 20 ans, Benoît Gros, est peut-être celui qui a encore aujourd'hui une influence sur la façon de diriger un groupe, sur la façon de diriger une équipe. Benoît, c'est quelqu'un de très demandant, de très rigoureux, mais qui a aussi un bon côté, qui est capable d'exercer son leadership pour que tout le monde s'entende bien au sein d'un groupe, que tout le monde connaisse son rôle, si on peut dire, et qu'il fasse sa job. Donc, dans la vie de tous les jours, là, que ce soit en entreprise ou même dans les projets que j'entreprends, bien évidemment, là, Benoît a quand même encore de l'influence aujourd'hui sur moi.
Es-tu encore en contact régulièrement avec Benoît Gros?
pas nécessairement régulièrement, mais ça arrive à l'occasion qu'on s'envoie des textos. Maintenant qu'il est rendu, qu'il était en Europe, et que là, il s'en va dans la KHL, ça va peut-être être plus sûr de se croiser dans des événements, soit au repêchage de la LHGMQ ou ailleurs. Mais non, on se parle pas sur une base régulière. On s'apprécie tout, à toutes les fois qu'on se voit, on apprécie le temps qu'on passe ensemble, mais je dirais pas là, que je lui parle régulièrement.
Une dernière question sur Benoît Groulx. Penses-tu qu'enfin, un jour, il va aboutir à la Ligue nationale de hockey?
Je ne sais pas. Pour être honnête, on y croit de moins en moins dû au fait qu'il était dans la Ligue américaine, dans le système du Lightning pendant plusieurs années. Puis la suite logique était qu'il se trouve un poste d'entraîneur-chef dans la Ligue nationale, mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Il y a quelques bons amis aussi qui ont soit monté dans la LNH, dans des postes de direction ou même dans des postes d'entraîneur-chef qui auraient peut-être pu l'apporter avec lui. Ça également, ça ne s'est pas fait. Donc, j'ai hâte de voir là, pour la suite des choses. Si Ben revient en Amérique du Nord, bien évidemment, il pourrait obtenir un poste d'entraîneur-chef un jour, mais je commence à penser que ça n'arrivera pas.
Quel était ton surnom, Tommy, avec les Sags? Qui étaient tes meilleurs amis?
Avec les Saguenayens, il l'a mentionné tantôt, j'ai passé seulement une saison, mais j'ai développé des liens quand même avec Joël Champagne, qui était le premier choix cette année-là, qui avait le même âge que moi, puis les deux, on était à l'école secondaire, donc évidemment, on passait quand même une bonne majorité de nos journées ensemble, si ce n'est pas la totalité. Puis le deuxième, c'est Marc-André Julien, qui était une recrue également là, lors de cette année-là, qui avait 17 ans. Deux personnes à qui je parle encore là, via les médias sociaux. Évidemment, on n'habite pas dans le même coin. Joël a passé une bonne partie de sa carrière en Europe, puis Marc-André est en Abitibi, donc c'est des gars que je garde des liens avec eux. Puis sinon, ben, mon surnom, c'était aussi simple que mes initiales, donc c'était Tété.
Tété!
Aussi simple que ça. On ne cherchait pas plus loin.
Okay. Depuis la fin de ta carrière, tu as revu plusieurs matchs de la Ligue junior maritime Québec parce que tu as été dépisteur avec les Cataractes de Shawinigan, entre autres, avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Quelles sont les différences que tu fais, toi, par rapport, comme recruteur, là, par rapport au moment où toi, tu as joué, puis par rapport à la nouvelle génération de joueurs qu'on reçoit là, dans la Ligue junior maritime?
Bien, il y en a plusieurs. Je pense que le hockey a évolué autant au niveau professionnel qu'évidemment les ligues en dessous, donc la LHJMQ a dû s'adapter elle aussi. Le jeu est beaucoup plus rapide. Les joueurs, les habiletés individuelles des joueurs versus peut-être ce qu'on avait à l'époque sont de loin supérieures. Pas nécessairement parce qu'on était moins talentueux ou quoi que ce soit, mais je pense que les heures d'entraînement nécessaires pour atteindre l'élite aujourd'hui sont beaucoup plus grandes. À l'époque, on pouvait peut-être passer deux mois sans toucher à la patinoire puis recommencer, si on peut dire, à patiner au mois de septembre ou au mois d'août avant d'arriver au camp d'entraînement. Maintenant, on ne voit pas ça. Les joueurs sont sur la glace 12 mois par année. Puis on a des jeunes de 13, 14, 15 ans qui passent environ 4-5 heures semaine à pratiquer leurs habiletés individuelles. Donc, évidemment, quand ils arrivent au niveau junior majeur, ils sont beaucoup plus... je vais utiliser un terme anglais, mais beaucoup plus skills et ont plus de vitesse aussi dans leur jeu. Puis ils ont plus de facilité à s'adapter à un calibre de jeu qui est peut-être un petit peu plus rapide. Puis, tu sais, c'est pas que nous, on n'avait pas nécessairement le vouloir ou le désir. C'est plus l'encadrement aujourd'hui, je pense, qui est un petit peu mieux. Dans n'importe quelle région au Québec, quand on parle à des jeunes, ils ont toujours des infrastructures pour pouvoir s'entraîner autant l'été que l'hiver, mais également des bonnes personnes ressources, des professionnels qui s'occupent de eux puis qui vont leur faire un plan d'entraînement autant hors glace que sur glace qui va leur permettre justement là, de prendre un gros step au niveau de l'été. Fait que tu sais, la principale force des jeunes d'aujourd'hui, c'est plus nécessairement l'attitude, le caractère, l'aspect, on peut dire, plus physique, quoi que ce soit, qu'on recherchait peut-être à l'époque. Maintenant, les joueurs sont rapides, beaucoup d'habiletés individuelles qui est une bonne chose. Puis quand on arrive puis on regarde un match de 2005-2006 à aujourd'hui, il y a énormément de différence là, au niveau de la vitesse du jeu.
Une autre question.
Pensons 30 secondes, les gars, à ce qu'on a aujourd'hui comme programme sport-études, comme entraîneur de développement individuel, tout ça. Si ça avait été applicable en 70, en 80, avec des Mario Lemieux, avec des Marc Fortier, des gars qui ont récolté 200 points par saison sans avoir ces programmes-là. Là.
Ouais. Imaginez-vous.
Exactement.
J'ai une autre question pour Tommy Tremblay, dit Tété, c'était ton surnom dans le temps, qui est maintenant recruteur dans l'hockey junior majeur du Québec. La question est celle-ci, Tommy. La taille des joueurs, tu en as parlé un petit peu tantôt, la taille des joueurs est-elle vraiment importante pour les organisations de hockey junior?
Je crois pas que pour le hockey junior, c'est un facteur qui est vraiment qui est important, si on peut dire, au point de le prioriser versus le talent ou versus d'autres aptitudes qu'on va rechercher parfois, comme l'éthique de travail ou peu importe. Je pense que le facteur le plus important, comme je l'ai dit, c'est la vitesse, puis surtout son niveau de son sens du jeu, à savoir s'il est capable d'anticiper. Par la suite, si le joueur a un bon physique, un bon gabarit, bien évidemment, tant aussi longtemps que la mise en échec sera permise puis qu'il y aura des bagarres à un contre un peu partout sur la patinoire, le jeune qui a une charpente un peu plus grande, un peu plus grosse, sera avantagé. Donc, tu sais, l'avantage d'avoir un bon physique va paraître en bout de ligne, évidemment, puis va être un facteur dans un match de hockey. Par contre, ce n'est pas nécessairement un critère prioritaire pour une ligue junior comme la nôtre, comme la LHJMQ, versus le hockey professionnel. Où est-ce que là...
Oui, ouais, vas-y, termine.
Ce que j'allais dire, c'est qu'au niveau professionnel, il y a quand même un certain prérequis en termes de grandeur puis en termes de size. Quand on regarde les alignements, c'est pas n'importe quel joueur qui peut jouer dans cette ligue-là, qui est la ligue qui frappe le plus au monde, la Ligue nationale de hockey, qui est la ligue la plus rapide au monde. Donc, quand on pense à des défenseurs comme Jacob Trouba, Andrew Miller, qu'on voit présentement avec les Rangers de New York, qui mesure 6-3, 6-4, bien évidemment, le gabarit pour jouer contre ces joueurs-là, ça va prendre un minimum. Il y a un certain prérequis qu'il doit avoir au niveau professionnel que nous, au niveau junior, on voit moins, puis on axe plus nos critères sur le talent.
Mais moi, je ne veux pas te mettre sur la sellette là, parce que ce n'est pas un joueur de ton organisation, mais quand on compare, comme tu viens de le faire, si je compare un joueur comme Connor Garden qui a joué dans la Ligue junior du Québec et qui performe très bien dans la Ligue nationale, à moins d'un problème qu'on ne connaît pas, qui soit hors glace, comment peut-on expliquer qu'un joueur comme Justin Poirier, avec le Drakkar de Bécomo, qui a marqué plus de 50 buts à 17 ans, soit ignoré de la liste de recrutement, soit ignoré du combine de la Ligue nationale? C'est quoi ton point de vue là-dessus?
Bien, tu sais, qu'il soit ignoré du combine, je le comprends un petit peu mieux que peut-être son classement au repêchage versus les statistiques qu'il a mis sur la table cette année. Par contre, je comprends aussi des organisations qui peuvent avoir peur à l'adaptation qu'il fera de son match rendu au niveau professionnel à 21-22 ans, avec, comme tu l'as dit, son gabarit qui est peut-être un petit peu plus petit, puis d'autres lacunes dans son jeu qui paraissent un peu moins au niveau junior. Tu sais. Mais une chose est sûre, c'est que l'organisation qu'il prendra va avoir un excellent choix, peu importe le rang qui va sortir, parce que ce joueur-là a joué avec ce gabarit-là au niveau Bantam, au niveau Midget 3, au niveau junior majeur, puis à toutes les étapes, était en mesure de s'adapter, puis a montré qu'il était capable d'être un gamer, puis quelqu'un qui allait remplir le filet, peu importe ce qu'on va mettre devant lui. Ce qu'il a fait cette année à 17 ans, c'est quand même assez incroyable. Là. On parle de 50 buts, quasiment 60 buts avec les séries éliminatoires, ou près de 70. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, puis il a seulement 17 ans. Mais quand on pense à Justin Poirier, pour moi, ben, il y a d'autres choses aussi qui viennent avant les buts qu'il va marquer. C'est un joueur extrêmement compétitif qui est un gamer et qui a un niveau de compétition très élevé. Puis ça, bien, quand on regarde les petits joueurs, si on peut dire, qui ont réussi au niveau professionnel, ils ont tous ça en commun. Puis on peut penser à un Martin Saint-Louis ou quoi que ce soit.
Parle-nous maintenant de ta situation familiale, épouse, conjointe, enfant. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie après ta carrière de hockey junior? Qu'est-ce que tu fais maintenant et où tu habites?
Ah, ben, j'habite à Shawinigan. Moi, au terme de mes 5 années dans la LHJMQ, je me suis dirigé vers le programme des Patriotes à l'UQTR, où est-ce que j'ai eu une formation en communication puis une spécialité en marketing. Par la suite, j'ai occupé des postes dans le domaine du sport. Puis maintenant, ben, je me suis réorienté, si on peut dire, dans une entreprise qui fait du développement logiciel. Donc, c'est une entreprise de TI à des années-lumière du monde du sport, mais je suis directeur des ventes là-bas. Donc, dans le day-to-day, ben, on gère un peu là, les différents plans qu'on a en termes de marketing, en termes de vente, de développement des affaires au sein de l'organisation.
Hey, j'ai une question à te poser, Tommy. Oui. Puisque tu es dans la région de Shawinigan, Trois-Rivières, les Lions de Trois-Rivières ont fait l'actualité beaucoup là, cette année. Puis, on craignait même un moment donné pour la concession. Tu es un gars de hockey. Tu sais, Shawinigan, c'est à côté de Trois-Rivières, un peu comme du Jonquière, Chicoutimi. Que penses-tu de l'avenir des Lions de Trois-Rivières dans la East Coast?
Évidemment, il va falloir que la population réponde présente. Tu sais, puis d'ailleurs, je compare un peu la situation des Lions et les Cataractes, la cohabitation des marchés avec ce que vous vivez au Saguenay. Tu sais. Au Saguenay, on a les Marquis qui attirent 2500 personnes par match, 3000 en série. Puis on a les Saguenayens qui ont fait ça le compte quasiment toutes les séries éliminatoires. T'sais. Fait que dans un marché beaucoup plus petit que celui de la Mauricie, quand on pense à Trois-Rivières, on a toute la rive sud qui est à côté, qui est à proximité. On est quand même bien situé entre les grands centres Montréal et Québec. On a tout le marché de Shawinigan qui est là également. Donc, tu sais, on est censé être capable de supporter deux organisations de hockey comme les Lions et les Cataractes. Après, ben là, c'est peut-être une question de mise en marché. Ou est-ce que les partisans ont-ils de l'appétit pour le hockey de la East Coast League versus le hockey de proximité qu'on peut voir dans la LNH et dans la LHJMQ? C'est peut-être une autre question, mais une chose est sûre, il va falloir que les partisans répondent présents parce que ça ne regarde pas bien pour le futur de cette concession-là.
Et peut-être l'aide des médias. Ici, les médias sont très présents pour les Saguenayens, les Marquis, puis même les élites. Là-bas, à Trois-Rivières, est-ce que les médias sont plus présents? Est-ce qu'il y a des émissions de sport comme nous autres à Trois-Rivières et à Shawinigan? Ça, j'en doute. Là.
Exact. Mais je pense que tu as un bon point aussi. Le milieu du sport, le monde sportif, il y a quand même plusieurs organisations aussi, plusieurs ligues. Puis évidemment, les activités ne sont pas tous centralisées sur le hockey, sur les Lions. Parmi l'éventail de médias qu'il y a, évidemment, ils pourraient occuper une place plus importante. Là.
Quelle est la personne dont tu as gardé le meilleur souvenir de ton passage avec les Saguenayens?
Évidemment, ma famille de pension, c'est des liens que tu crées quand même pour la ville. Corinne, Clément, qui sont les personnes qui m'ont accueilli lorsque j'avais 16 ans, ont été formidables. Quand tu pars de la maison à 16 ans, tu es quand même encore un enfant, si on peut dire. Fait que, quand je suis arrivé là-bas, je suis tombé à une bonne place. C'est des gens qui m'ont beaucoup aidé là, pendant l'année. Puis, d'ailleurs, ils sont encore en très bonne relation avec mes parents à moi. Ils ont fait des voyages ensemble au terme de mon passage à Chicoutimi. L'occasion se présente peu pour aller les voir là-bas à Chicoutimi. Mais à toutes les fois que je vais dans l'aréna, je vois à l'aréna Midget 3, je vois Alexandre qui était le fils aîné, qui est recruteur avec les Wildcats de Moncton, avec qui j'ai passé d'excellents moments là-bas. Là. Lui était encore à la maison, puis moi, je jouais. Fait que, évidemment, deux passionnés de hockey, on a eu des bonnes discussions. Puis c'est ça. Donc, c'est vraiment ma famille de pension là, que je garde les meilleurs moments.
Tu as passé une saison avec les Saguenayens, comme on le mentionnait. Dans quelle aréna de la LHJMQ connaissais-tu tes meilleurs et tes pires matchs?
Ouf! Les meilleurs, j'ai toujours aimé jouer au Saint-Georges à Chicoutimi. Je pense qu'il y avait, surtout dans cette année-là, on arrivait l'équipe arrivait de deux grosses années, d'un règne où est-ce que, tu sais, on était un peu en transition. C'était la dernière année de David Dernais, la dernière année des Blanchard, des Brouillettes, Mathieu Bolduc. Donc, Véropol était encore là aussi. Donc, tu sais, il y avait encore plusieurs vétérans qui avaient réussi quand même pas à relever l'organisation, mais tu sais, à attirer des très bonnes foules dans les 3-4 dernières années. Fait que, tu sais, je pense que l'organisation était quand même à un excellent niveau en termes d'assistance, en termes d'ambiance qu'il y avait lors des matchs. Fait que c'était toujours le fun de jouer à domicile. Puis dans cette année-là, peut-être la 16 ans, mes pires matchs, d'après moi, c'était au Colisée Pepsi où est-ce qu'il y avait 15-16 000 personnes dans les estrades, puis que c'était quand même assez intimidant là, pour un jeune de 16 ans.
On va terminer là-dessus. Ça prend de la passion pour continuer après ta carrière junior. Tu l'as fait avec les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières parce que c'est pas facile de composer études universitaires et hockey. Je sais qu'ils ont un bon encadrement à l'Université de Trois-Rivières. Et tu as continué également avec ton emploi du temps à jouer au hockey senior pendant plusieurs années. Parle-nous de tes passages au hockey universitaire et au hockey senior et de la passion qui t'a gardé là.
Ben, tu sais, tu l'as dit, puis je pense que c'est l'élément clé dans tout ça, c'est la passion. Si t'es pas passionné, bien évidemment, peut-être qu'au niveau junior majeur, tu vas te convaincre de continuer, mais après ça, tu vas accrocher tes patins ou tu n'auras pas envie de continuer. Moi, dans mes plans, après ma carrière universitaire, c'était de tomber professionnel, donc soit d'aller en Europe ou même aller ici professionnel en Amérique du Nord. Finalement, ma dernière saison avec les Patriotes, j'avais eu une opportunité d'emploi que je ne voulais pas refuser à l'époque pour commencer, on va dire, professionnellement dans la vie. Je pensais que ça allait être une belle expérience, ça en était une. Donc, tu sais, j'ai pas fait le choix d'aller professionnel. Par contre, mes années universitaires m'ont permis d'avoir une chance de jouer au hockey professionnel par la suite, m'ont permis d'être diplômé également, donc d'avoir des offres autant au hockey, mais également sur le marché de l'emploi. Puis mes années avec les Patriotes, on avait une excellente équipe, on a gagné un championnat, on a perdu en finale d'un autre, trois participations au championnat canadien. On a vraiment eu du bon temps entre, si on peut dire, entre boys dans ces années-là, puis c'est mes plus belles années de hockey que j'ai eu. Puis après ça, bien, par la suite, bien évidemment, lorsque j'ai commencé à travailler, je n'étais pas prêt à mettre une croix, si on peut dire, sur le hockey compétitif. Puis au Québec, le hockey compétitif passe par les ligues de hockey senior. Donc, autant la LNH que la ligue de hockey senior 3A. La ligue de hockey senior 3A, ce qui me rejoignait plus à l'époque, c'était le nombre de matchs versus la LNH, puis l'implication de devoir quitter un peu tôt pour jouer à Rivière-du-Loup, jouer à Jonquière, ainsi de suite, dans des marchés un peu plus éloignés. Donc, moi, j'ai joué, ça fait 8 ans, 9 ans là, que je joue des matchs autant dans la LNH que dans le Senior 3A. Puis, ce que j'aime là-dedans, bien, c'est d'être avec les boys le vendredi puis de continuer à compétitionner quand même.
Tommy Tremblay, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça a été agréable d'en savoir un peu plus sur ta carrière.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Lâchez pas votre bon travail.
Yves Bolduc, qui sera notre invité la semaine prochaine?
On va rester dans le clan Tremblay, Michel et Dominique. La semaine prochaine, on va recevoir un joueur qui a passé deux saisons avec les Saguenay au début des années 2000, qui est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Shane Tremblay sera notre invité la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Yves Bolduc. Maintenant, une nouvelle que les amateurs de hockey attendent depuis quand même un petit bout de temps. Nouvelle concernant la Ligue nord-américaine. Dominique Bolduc, on en sait un petit peu plus sur ce qui se passe à Québec, la nouvelle équipe. Qui sera le directeur général? Première question.
Daniel Gauthier, ancien coach des Pétroliers de Laval.
OK. Qui sera l'entraîneur? D'abord, on ne sait pas le nom de l'équipe, là.
On ne sait pas le nom de l'équipe.
Alors, on va l'appeler l'équipe de Québec. Qui sera l'entraîneur de l'équipe de Québec dans la Ligue nord-américaine?
Daniel Gauthier. Ancien joueur des Marquis aussi, et son fils Danick qui joue à Thetford-Mines.
Troisième question, là, ça peut pas être Daniel Gauthier, parce qu'il peut pas être directeur général, coach et assistant coach. On connaît le nom de l'entraîneur adjoint de la nouvelle équipe de Québec. Il s'agit de...
Donald Brashear.
Quoi?
Donald Brashear sera le coach adjoint de la nouvelle équipe de Québec.
Il quitte les Marquis?
Il quitte les Marquis.
Question.
Oui?
Sera-t-il coach adjoint joueur?
Moi, je pense qu'il va jouer. Qu'il va jouer.
OK. Hey, là, c'est une grosse nouvelle qu'on vous annonce. Daniel Gauthier, nouveau directeur général et entraîneur de la nouvelle équipe de Québec dans la Ligue nord-américaine. Et l'entraîneur adjoint, Donald Brashear. Est-ce qu'il va jouer? On va sûrement l'appeler, on le connaît, Donald. Alors, c'est une grosse nouvelle qu'on vient d'apprendre là. Maintenant, est-ce qu'on connaît les adversaires? J'ai beaucoup de questions. Les gars de radio, on a des questions tout le temps. Est-ce qu'on connaît les adversaires, l'heure et la journée du prochain match de Leilani Fernandez et de Félix Auger-Aliassim à Roland-Garros?
Du côté de Leilani Fernandez, elle affrontera la chinoise et 61e mondiale Xiu Wang. On n'a pas de date, probablement mercredi qu'elle va jouer ce match. Pour ce qui est de Félix Auger-Aliassim, et lui, il disputera son prochain match contre l'Allemand issu des qualifications, Henry Squire, qui lui a battu l'Australien Max Purnell dans un bris d'égalité de 5 manches.
Et au baseball, on est en 8e manche. Les Jays mènent 3 à 1 sur les White Sox de Chicago. Et Dominique, il y a du hockey ce soir, Ligue nationale.
Oui, 3e match de la finale de l'Ouest entre les Oilers d'Edmonton et les Stars de Dallas. La série égale 1 à 1. Début de la rencontre, 20h30.
J'espère que vous en avez eu pour votre argent, les amateurs de sport. Dans le fond, le vestiaire, c'est gratuit. En
oui.
Plus, j'espère que vous avez eu votre argent. Mais dans le fond, c'est l'émission, la radio du 92.5, c'est gratuit. Si je ne me trompe pas, Réveillez-vous, c'est gratuit.
Oui.
Annick Bilodeau, c'est gratuit. Le marché aux puces, c'est gratuit. Dans le vestiaire, c'est gratuit. Après ça, le retour, c'est gratuit. Bill Country le soir, c'est gratuit. Maintenant, ce qui est gratuit également, c'est notre concours.
Oui.
Parce que là, tu vas nous donner, Dominique Bolduc, le mot de passe pour... que les gens s'inscrivent à notre concours. On s'en va au CF de Montréal.
Oui, effectivement. Donc, vous vous rendez au ckj.org, section concours, pour remplir vos coordonnées. Et le mot de passe aujourd'hui, Ligue.
Ligue.
Il y a plusieurs des Ligues. Ligue et le mot de passe. Puis vous nous appelez 88 82 92 50 pour être finaliste.
Mon co-animateur André Deschamps semble prêt pour le retour.
Il a l'air, en tout cas.
T'es, toi aussi, t'es prêt, Dominique, pour le retour.
Pas le choix.
Bonne soirée, mesdames, messieurs.
Bonjour.
On ferme le vestiaire. De retour demain, 15h30.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
Chez l'Étoile Dodge de Jonquière, en mai, viens te gâter. Tu choisis jusqu'à 20% de rabais sur les Ram Classic 2023. Nos Grand Cherokee PHEV ont 8 000 $ de rabais et nos Jeep Gladiator 2023 ont 10%. Wow! Ou tu prends 0% jusqu'à 72 mois. Aussi, nos moteurs diesel Cummins sont sans frais sur les Ram HD 2024. Et nos Fiat électriques arrivent bientôt. En mai, viens te gâter chez... Tout ça avec les changements d'huile gratuits pour 2 ans.